Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, c'est Sporama en direct de Washington, le studio 9. Merci de votre fidélité. On est ensemble pour 30 minutes pour faire évidemment le point sur l'actualité sportive du week-end sur le continent et un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité. On attend évidemment vos appels en direct. Le 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Georges Léonard Sagnot et Fred Nerkayemit derrière la vitre pour prendre évidemment vos appels. On va saluer nos intervenants habituels. On va d'abord à Kinshasa retrouver le rédacteur en chef de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, Thierry Kamboundi. Bonsoir Thierry.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
On va également saluer du côté de Casablanca au Maroc, celui qui nous fait vivre depuis plusieurs semaines le CHAN 2018 dans son pays, c'est bien évidemment Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va partir à Libreville, saluer Jules Valentin Gouy. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
En direct de Boïcon au Bénin, Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les amis auditeurs de la VOA Afrique.
Alors on espère que la ligne est revenue avec Dakar pour saluer Amdine Sy qui est avec nous en direct de la capitale sénégalaise. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas Pinon et bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Allez, les dieux du téléphone sont avec nous et on salue dans ce studio celui qui est avec nous comme chaque semaine, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Allez messieurs, on va bien évidemment commencer le gros morceau de ce Sporama du 29 janvier 2018. C'est bien évidemment le CHAN, le championnat d'Afrique des nations réservé aux joueurs locaux. Il a commencé maintenant depuis un peu plus de deux semaines évidemment au Maroc et on y voit beaucoup plus clair maintenant évidemment avec l'affiche des demi-finales puisqu'hier les Diables Rouges ont été éliminés malheureusement et c'est la Libye qui accompagnera évidemment le Maroc lors des demi-finales. Dans l'autre demi-finale on aura un Soudan-Nigeria. On va revenir évidemment sur ces quarts de finale, peut-être revenir sur le match d'hier que vous avez notamment suivi Amine, vous êtes évidemment au Maroc. Les Diables Rouges qui ont résisté un but partout à la fin du temps réglementaire et puis la cruelle désillusion, les tirs au but 3-5, ils se sont révélés les Diables Rouges, ils se sont extirpés d'une poule pas facile avec le Cameroun, avec le Burkina et également l'Angola. Quel est votre sentiment vous sur ces quarts de finale d'hier où les Chevaliers de la Méditerranée se sont qualifiés?
Les Chevaliers de la Méditerranée qui ont fait preuve de beaucoup de métier pour pouvoir se qualifier, parce que si l'on devait regarder l'ensemble du match, Nicolas, les Diables Rouges ont été bien plus fringants, ils ont maîtrisé le tempo du match. Il est vrai que le premier but qu'ils ont concédé au quart d'heure de jeu était évitable. Il est vrai qu'il aurait pu leur coûter très cher puisque les Libyens à un moment se sont mis à spéculer sur le 1-0, mais dans cette équipe du Congo il y a du talent, il y a des joueurs notamment Macky Sé sur le côté gauche qui a totalement été le détonateur de la révolte des Congolais. Son but égalisateur a été pour beaucoup dans le retour des Diables Rouges dans la partie. En deuxième mi-temps, il a eu deux tirs magnifiques qui ont été sauvés dans la même minute par le portier libyen et qui ont failli changer le cours des choses. Et puis, peut-être que la fatigue aidant, les Libyens se sont mis à grignoter ce léger avantage sur le terrain des Congolais pour terminer très fort la partie, notamment lors de la première partie de la prolongation, où ils ont eu des occasions pour pouvoir abréger la rencontre. Quoi qu'il en soit, l'exercice des tirs au but est une loterie. Souvent, elle sourit aux équipes qui se sont préparées peut-être le mieux pour cet exercice. On rappellera que les Libyens ont gagné le CHAN en 2014 en gagnant ou remportant leur quart de finale, leur demi-finale et leur finale lors de ce fatidique exercice des tirs au but. Donc c'est une spécialité et on les voyait à la fin du match se prosterner juste pour remercier le Seigneur d'avoir réussi à tenir pendant 120 minutes parce qu'à cet exercice ils sont rodés et évidemment s'il y a aujourd'hui le gardien du Congo qui a raté le pénalty qui peut s'en vouloir, il y a beaucoup de grands du football qui ont manqué lors de cet exercice leur tentative. Le Congo, personne ne pariait au début de la compétition sur les Diables Rouges. Personne ne les voyait aller au-delà du premier tour. Ils ont rempli leur mission. On aurait aimé qu'ils soient en demi-finale parce que ça aurait tout simplement signifié que la génération championne d'Afrique en 72, demi-finaliste en 74, avait la possibilité d'avoir enfin des héritiers. C'est la deuxième fois que le football congolais, après la CAN 2015, s'arrête au palier des quarts de finale.
Ah là, vous nous parlez d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. J'en fais partie. Amine, mais alors on va parler peut-être justement de ces Congolais. On va écouter Barthélémy Ngatsono, qui est satisfait évidemment de son parcours, hein, de cette équipe qu'on n'attendait pas à pareil niveau. On écoute le sélectionneur du Congo.
Il y a une qui est attaquée à outrance, l'autre était regroupée en bloc pour partir en contre-attaque. Voilà, et le jeu, je crois qu'il était quand même équilibré, parce que en fin de compte, on a fait 1-1 jusqu'aux prolongations. Et ce n'est qu'à l'issue de tir au but que la chance a joué, nous avons manqué, et puis ils ont marqué les 5 pénaltys. Voilà.
Voilà, c'était Barthélémy Ngatsono, le sélectionneur du Congo-Brazzaville. On va prendre la direction du voisin congolais à Kinshasa, Thierry Kamboundi. Thierry, cette équipe qui avait fait mal, hein, on s'en souvient au Léopard, hein, pour se qualifier pour ce CHAN. Est-ce que ça vous surprend, vous, cette belle prestation des Diables Rouges locaux ?
Ça ne me surprend pas, parce que la fois dernière, j'ai salué la performance de ces jeunes gens qui ont logiquement éliminé les Léopards locaux. Tenant des titres lors des éliminatoires, c'était en août dernier. Ils ont mérité leur parcours, surtout avec ce beau jeu qu'ils ont développé, ce jeu rapide et surtout en contre-attaque. Donc je ne suis pas surpris de leur performance, malheureusement déçu qu'ils soient tombés sur des Libyens. Déjà, on l'a rappelé, qui était champion en Afrique du Sud en 2014, et des Libyens dont les paradoxes ou dont la force consiste au fait que même si le championnat local ne se joue pas chez eux, ils sont très souvent en stage, ils sont très souvent ensemble, et donc ont développé depuis plusieurs années maintenant des automatismes qui leur permettent d'être assez performants à ce genre de compétition. C'est vrai qu'au niveau des seniors, ça ne marche pas encore, mais la sélection locale de la Libye a toujours fait mal et a toujours bien pressé lors ces différentes éditions du championnat d'Afrique des Nations. Donc je ne suis pas surpris, le championnat du Congo-Brazzaville est en train de progresser année après année avec l'épopée des Léopards de Dolisie qui, il y a quelques années, ont remporté la Coupe de la Confédération. Donc ça va monter progressivement et je pense qu'il reviendra encore très très fort lors de la prochaine édition, la 6e de ce championnat d'Afrique des Nations.
Merci Thierry, on va prendre un premier auditeur qui nous appelle du Tchad, hein. C'est Guy Valentin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez suivi ce CHAN, évidemment, hein, les SAO, hein, les guerriers n'étaient pas présents. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau général de la compétition ?
Moi je dirais que je vois le Nigeria et le Soudan seront les favoris de cette CHAN 2018 au Maroc. Parce que vu le talent du Nigeria, je souhaite que le Nigeria sera le favori de la CHAN.
Alors en tout cas, merci beaucoup. Oui, mais attendez, on va juste peut-être donner la parole à Elisung Patine, notre auditeur qui nous dit sa préférence pour le Nigeria et le Soudan, ces deux équipes qui vont se rencontrer en demi-finale. Donc déjà, il y en aura un de moins. Quelle est votre préférence, Élisée, entre Soudan et Nigeria ?
Bon, on aura deux belles formations en demi-finale, Nicolas, il faut le dire, parce que pour cette demi-finale, la logique a été respectée, en tout cas par rapport à l'espérance de cette compétition, le Maroc qui évolue à domicile, la Libye, ancien vainqueur, d'ailleurs le seul vainqueur à prendre part à cette compétition cette année, le Nigeria qui a déçu durant des années, puisque le Nigeria a un très bon championnat, il faut le dire, un très bon championnat. C'est vrai qu'il y a eu tellement des joueurs qui, après chaque saison, s'exilent peut-être du côté du Maghreb, pourquoi pas en Arabie Saoudite ou encore en Europe. Mais le Nigeria a tellement de joueurs talentueux, tout comme le Soudan, qui a deux grands clubs qui subissent pratiquement à chaque saison en Ligue africaine des champions. Je veux bien nommer Al-Hilal de Omdurman, le club champion du Soudan, titré puis Al-Merrikh, qui est le dauphin de ce club, de ces deux équipes qui se battent énormément à chaque saison pour pouvoir remporter le titre de champion du Soudan. Et bien, ces deux équipes qui ont fourni tellement de très bons joueurs pour cette équipe nationale. Le Soudan qui est à la recherche de son passé. On se rappelle le Soudan qui fait partie des équipes qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il y a tellement longtemps. Et bien, le Soudan qui est en train de créer tout petit à petit son chemin, surtout par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations version locale. On verra une très belle opposition. Nous avons vu surtout les Soudanais face au pays organisateur, le Maroc, lors de son dernier match. C'est une équipe qui a résisté au pays organisateur, surtout défensivement, une équipe très physique qui joue rapidement contre les, suite à cette contre-attaque que les Soudanais ont obtenu leur qualification pour les demi-finales. Attention aux Nigériens, le Nigeria aussi a de la valeur et on va assister à une très belle finale. Mais il faut le dire, Nicolas, puisque vous m'avez posé la question, quelle préférence, je préfère tout de même le Nigeria qui est un pays limitrophe fort du Bénin.
Eh oui, la solidarité ouest-africaine. On va poser la question à Jules Valentango. Est-ce que finalement, cette composition des demi-finales, ça ne montre pas aussi la pauvreté, en tout cas l'appauvrissement de certains championnats locaux? On pense évidemment au Cameroun, on pense à la Côte d'Ivoire, on va parler du Burkina Faso évidemment avec Yacouba Ouédraogo. Quel est votre avis, Jules Valentin?
Oui, bien sûr, mais ça c'était déjà une information qu'on avait plus ou moins médité depuis assez longtemps, parce que généralement les équipes qui brillent ici, c'est des équipes qui ont non seulement un bon championnat, mais aussi qui trouvent dans l'équipe disputant le CHAN une bonne ossature de l'équipe type l'équipe fanion du pays. C'est le cas pour les Libyens, par exemple, qui se retrouvent très bien collectivement. C'est le cas aussi pour le Soudan, dont le nom ne fait que changer. Des crocodiles, ils deviennent des faucons. Mais sur le terrain, il y a pas mal de joueurs très expérimentés qui font la différence dans la zone de vérité, qui sont rapides et déterminants le plus souvent dans les derniers mètres, et qui savent, ma foi, exploiter les failles tactiques, comme ça a été le cas pour le Soudan contre la Zambie, en exploitant la faiblesse de la défense zambienne sur le côté gauche. Donc je dis que ce que vous dites est vrai, et les équipes comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, qui exportent beaucoup de joueurs, ont des championnats par contre qui ne tiennent pas tellement la route, et elles ont du chemin à faire pour ramener le football local au niveau des équipes fanions.
Oui, votre avis, Yacouba Ouédraogo, notamment voilà, sur ce qui se passe au Burkina Faso?
Ce qui se passe au Burkina était prévisible. Il y a pas mal d'observateurs burkinabés qui ne voyaient pas les étalons locaux sortir des phases de poule. Et ça se justifie simplement parce que, vous savez, le CHAN, c'est un championnat, je vais dire, des championnats locaux. Et donc, lorsqu'on se passe de ceux-là même qui sont qualifiés de meilleurs joueurs de son championnat et qu'on se retrouve au CHAN sans le meilleur buteur même du championnat local, et on se retrouve au CHAN sans celui-même qui a été désigné, Draman Salou, comme meilleur joueur de la première phase 1 du Faso Foot, comme on l'appelle au Burkina, le championnat de première division, eh bien on ne peut pas s'attendre à des miracles. Et lorsqu'on joue contre l'Angola pour le premier match et que lors du second match, on change son effectif à 63%, seulement 4 joueurs qui ont commencé contre l'Angola se retrouvent titulaires dans le deuxième match, ça veut dire que jusque-là, on ne maîtrise pas son 11 type après un stage quand même de 2 semaines en Tunisie. On ne peut pas s'attendre à des miracles. Et puis, quand vous prenez par exemple les 3 rencontres, en 3 rencontres, les Italiens n'ont pu marquer qu'un seul but. Écoutez, c'est tout dit. On ne peut pas marquer un seul but et puis se retrouver en quart de finale. Et donc, je pense que l'entraîneur a continué dans son entêtement. Et on l'a vu aussi lors de ses conférences de presse, surtout au Maroc là-bas. Peut-être Amine l'a suivi en même temps que nous. Il y avait beaucoup d'accrointes, l'entraîneur local qui est Drissa Malo Traoré Saboteur et les journalistes locaux. Tantôt, c'est « vous ne pouvez pas m'enseigner le football ». Écoutez, je suis docteur en criminologie en même temps que football et d'entraîneur de football. Donc, je pense qu'il a quand même ouvert plusieurs fronts, dont notamment il fallait gagner sur le terrain et au même moment il fallait soigner bien sûr ça comme face aux journalistes, et donc on ne peut pas ouvrir tous ces fronts-là et puis pouvoir s'en sortir quoi dans un champ où la cohésion demeure bien sûr l'un des maîtres mots lorsqu'on veut avancer.
Alors on va partir du côté de Dakar, on va retrouver Amdine Sy. Amédine, vous êtes un touriste évidemment puisque le Sénégal ne participe pas à ce CHAN 2018, je sais que ça fait mal du côté de Dakar, mais quelle est votre analyse vous concernant le déroulé de ces matchs et ces deux affaires fiche des demi-finales?
Bon, d'abord, Nicolas, il faut savoir que si on regarde le carré d'as, on se dit que c'est normal, puisque des équipes comme le Maroc, des équipes comme le Soudan, le Nigeria, bon, ces deux formations, Nigeria et Soudan, qui n'ont pas concédé des défaites, je pense qu'ils mettent amplement leur place pour les demi-finales. Mais si on regarde ce championnat d'Afrique réservé aux joueurs locaux, on se rend compte qu'il y a le lot des pays organisés qui ont des infrastructures et qui parviennent à retenir le jour. Je vous parlais des pays maghrébins comme le Maroc, etc. Et ils ont de très bonnes équipes
Également, il y a des pays où, qui ne parviennent pas à avoir des joueurs qui sortent le plus souvent. Parce que quand on regarde un pays comme le Sénégal, où beaucoup de joueurs, on ne parvient même pas à garder les joueurs, c'est un problème pour avoir une équipe nationale locale compétitive. Mais les dirigeants sont obligés maintenant de faire le travail parce que ce championnat d'Afrique réservé aux joueurs locaux est en train de grandir puisque la compétition est devenue attractive. Retenez que le vainqueur de ce champ va percevoir 660 millions de francs CFA, ce qui n'est pas rien, ce qui peut booster quand même le football local d'un pays comme le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, etc. Pour le moment, rien que pour les deux finalistes, ils ont reçu 211 millions. Je pense que les dirigeants des pays comme le Sénégal, le Burkina et les autres vont faire quand même un travail remarquable pour pouvoir se qualifier et pourquoi pas faire les résultats parce que c'est devenu important, Nicolas Pinot.
Inch'Allah, comme on dit à Dakar. On va marquer une petite pause hein, sur VOA Afrique. On revient dans quelques instants. Et on le disait bien évidemment, le pays organisateur, le Maroc, hein, toujours beaucoup de succès au complexe Mohamed V de Casablanca devant son public. La qualification en quart de finale évidemment face à la Namibie de 2-0. Une demi-finale pas facile hein, contre les Libyens qui s'annoncent. Mais moi en tout cas, je fais du Maroc mon favori. Avant d'écouter Amine Birouk hein, qui suit bien évidemment ce groupe marocain, on va écouter le sélectionneur du Maroc. On écoute Jamal Selami.
Comme les joueurs, lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas « je » ou « moi », ils parlent « nous ». Nous aussi, on dit « nos joueurs » parce que ce sont les joueurs du Maroc. On est satisfait jusqu'à présent et on espère, Inch'Allah, qu'ils soient performants jusqu'à la fin parce qu'on mérite d'être champion. On est bien, on est chez nous, on est supporté par nos supporters. On a de bons joueurs, on a le coach Hervé qui est là, qui supporte les joueurs, qui les motive. Je pense que toutes les circonstances sont là pour que ces joueurs-là écrivent l'histoire du Maroc.
Voilà, qu'ils écrivent l'histoire du Maroc. Jamal Selami, le sélectionneur du Maroc. Avec Amine Birouk, on est à 180 minutes peut-être de cette nouvelle page du football marocain, de cette nouvelle ligne sur le chapitre palmarès.
Et oui, dire que le public attend ça depuis 42 ans, parce que depuis le sacre du Maroc en Cannes en 1976, il n'y a pas eu de consécration africaine au plus haut niveau. Dire aussi que le Maroc en 1988, il y a 30 ans, avait accueilli la Cannes et s'était cassé les dents face aux Lions indomptables du Cameroun en demi-finale. Donc c'est le match à ne pas perdre. C'est aussi une obligation de résultat dans la mesure où actuellement, tout sourit au football marocain. On rappellera donc la victoire du Wydad de Casablanca, dont une bonne partie des joueurs est dans le groupe des 23 alignés par Jamal Selami en Champions League. On parle de la qualification du Maroc pour la Coupe du Monde 2018 avec un autre groupe. Et puis on parle aussi de tous les acquis que le football marocain est en train de gagner en matière d'infrastructure, en matière de gouvernance, beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui la fédération, l'équipe nationale, les joueurs locaux, est dans l'obligation de remporter ce trophée devant son public. Le calendrier est l'ordre des matchs a souri aux Marocains. Ils jouent au complexe Mohamed V. Ils jouent à guichet fermé devant 45 000 supporters à chaque fois. Donc, les prédictions les plus optimistes se réalisent face à la Libye, le Maroc aura une autoroute pour emporter enfin un sacre continental. Mais attention, les chevaliers de la Méditerranée sont des survivants. Ils ont battu le Rwanda dans le tout dernier souffle de leur match à la fin du premier tour. Face au Congo, ils ont fait le dos rond lorsque les Congolais avaient des temps forts et sont allés jusqu'au tir au but. C'est une équipe qui n'a pas pour habitude de se découvrir. Et puis c'est un derby, c'est un match entre équipes maghrébines. Et dans ce genre de rencontre, un petit détail, un petit grain de sable pourrait faire dérailler le rêve marocain. Donc les Marocains doivent être optimistes, mais de manière assez modérée, parce que les Libyens sont peut-être l'outsider de la compétition. Ils ont dans leur ADN la niaque et la gagne, et puis ils savent surtout ce que c'est que gagner un chan.
Merci beaucoup, on va prendre un nouvel appel hein, d'un auditeur qui nous appelle du Tchad, c'est Apollinaire. Bonsoir Apollinaire.
Bonsoir monsieur.
Alors écoutez, vous avez évidemment suivi ce débat, les matchs du chan. Quel est votre avis, vous, sur cette compétition continentale?
Oui, moi, mon avis est que c'est les deux équipes favoris, c'est surtout le Nigeria et le Maroc. Parce que c'est dans ces équipes-là où il y a assez de joueurs de qualité des joueurs qui sont à la hauteur pour faire quelque chose. Mais en conclusion, c'est le Nigeria qui va remporter la victoire finale, à mon avis.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Apollinaire d'avoir été avec nous sur ce Sporama hein, sur VOA Afrique. On a bien noté votre commentaire. On va évidemment donner rendez-vous à tout le monde. Hein. La Libye face au Maroc, évidemment, et le Soudan face au Nigeria, ce sera cette semaine. On va continuer à suivre ça sur VOA Afrique. On va peut-être parler avec vous, Jules Valentin Gouy, peut-être de la fin hein, de l'épisode Aubameyang. Hein. Ça a été une grande souffrance cette saison 2017-2018 hein, face à Dortmund. Et Aubameyang qui normalement dans les prochaines heures devrait officiellement s'engager avec Arsenal. C'est en tout cas ce que rapportent deux médias britanniques. Ça va faire du bien ce changement d'air selon vous, Jules Valentin Gouy?
Oui, un changement d'air qu'on attendait depuis longtemps pour que Aubameyang joue en quelque sorte à un niveau supérieur en ce qui concerne le contexte et général du football. On sait qu'en Angleterre, c'est un championnat très regardé, un championnat également très disputé, alors qu'il est relativement monocorne en Allemagne où on connaît déjà les favoris dès les premières rencontres. Donc Aubameyang nous franchit un cap supérieur avant qu'il n'entre dans la ligne fatidique de la gestion de fin de carrière. Donc il est aussi très bon qu'il tombe sur le plan sportif sur une équipe comme Arsenal, qui fait du jeu, qui produit du jeu, vraiment, et qui laisse des espaces, ce que Aubameyang adore en général. Ça lui fera donc passer un palier supérieur et sûrement améliorer son palmarès de joueur.
Oui, Yacouba Ouédraogo, c'est aussi la fin d'une époque hein, pour, évidemment, Dortmund. On avait la paire Dembélé-Aubameyang. On sait que Dembélé est parti dans les conditions particulièrement difficiles de Dortmund. Aubameyang, en tout cas, il avait cette réputation de traîner un peu la patte là, sur ces derniers mois. On se souvient que l'entraîneur du Bayern avait dit que des joueurs comme ça, il fallait surtout pas les prendre. Est-ce qu'il a raison de partir, Aubameyang, selon vous, et dans ces conditions?
Je pense bien qu'il a raison de partir, mais dans ces conditions, je dirais non, parce que c'est un professionnel de haut niveau. Et donc, il faut savoir aussi partir. Il a écrit une belle histoire avec Dortmund. C'est un joueur qui est assez respecté, en fait, qui était assez respecté jusque-là. Et donc, moi, je pense qu'il fallait quand même partir de la bonne manière pour garder ses relations-là avec le club, parce que bon, c'est la vie, on ne sait jamais. Hein. Il peut encore être amené à revenir à Dortmund, tout est possible. Et donc, parti, oui, parce que c'est l'occasion, je le disais tout à l'heure, il faut se mesurer encore à un niveau beaucoup plus haut. Il a 28 ans, c'est pas rien. Et donc, d'ici là, il va rentrer dans une phase assez difficile de la gestion d'une fin de carrière où généralement les joueurs courent après l'argent. Et donc, aller à Arsenal, c'est surtout bien pour lui parce qu'Arsenal aussi, c'est un football assez ouvert avec beaucoup d'espace et donc ça pourra lui profiter.
Et il aurait pu aller chez les Chinois hein, parce qu'on sait qu'il y avait un intérêt des clubs chinois, il aurait pu faire la même chose.
On se rappelle encore de ces chiffres pharaoniques hein, et Nicolas dont on parlait ici peut-être il y a deux semaines de cela. Et donc il a fait un choix sportif en allant à Arsenal et en n'allant pas bien sûr du côté de la Chine, mais c'est la manière surtout qui n'est pas ça. On se rappelle que Dembélé aussi est parti dans les mêmes conditions. Je ne sais vraiment pas pourquoi avec ces deux joueurs du même club ça finit comme ça. Peut-être c'est les dirigeants qui sont trop durs encore, les joueurs aussi qui sont obligés de passer par là pour pouvoir quitter les clubs, mais ce n'est toujours pas intéressant qu'un joueur parte de la sorte.
Thierry Kamoundi, Top Congo FM, rapidement, Cédric Bakambu, est-ce qu'il est enfin parti, est-ce qu'il a enfin signé en Chine?
Je sais toujours pas, la nouvelle n'est pas encore officialisée. Il y a près de deux semaines, le club, son ancien club, le sous-marin Jean Villarreal, avait officiellement annoncé que le joueur avait lui-même payé sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Mais depuis, aucune nouvelle de Cédric Bakambu. Donc, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va réellement signer avec le club et sera présenté surtout par ce club chinois.
Merci beaucoup hein, Thierry Kamoundi pour l'information. On suivra ça évidemment sur VOA Afrique. Voilà, ainsi s'achève ce Sporama. On va remercier Amine Birouk hein, qui suit ce chat pour VOA Afrique. À bientôt Amine.
À bientôt Nicolas, bonsoir à tous.
On va remercier Jules Valentin Gouy à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Un grand coucou également à Amdine Si à Dakar. À bientôt.
À bientôt Nicolas Pinot et bonsoir à tous les auteurs de VOA Afrique.
On va remercier également Élisée Oumpatine à Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Et Thierry Kamoundi à Kinshasa, Top Congo FM. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
On va remercier également Yacouba Ouedraogo qui était avec nous dans ce studio. À bientôt Yacouba.
Merci.
On va remercier Georges Léonard Sagno et Fred Nerkayemid pour la mise en onde. Nicolas Pinault était à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h PU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.